Bondiblog Café.
www.bondiblogcentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondiblog Centre Café de Radio Campus Orléans. Campus, un refus d'obéir à des ordres contraires à la loi. L'ex-responsable de la sécurité informatique de l'Université d'Orléans conteste son licenciement. Voilà le titre d'une actualité concernant le campus d'Orléans que l'on pouvait lire dans l'édition du mardi 26 mai de votre quotidien local préféré. L'affaire a été largement détaillée dans un article de Thomas Doré, notre confrère journaliste à la République du Centre. Je le cite. Pierre-Antoine Hérard, l'ancien responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'Université d'Orléans, conteste son licenciement acté à la fin du mois d'avril. Il évoque notamment une volonté d'intrusion de la présidence dans le secret des correspondances électroniques du personnel. Avant, Pierre-Antoine Hérard était le responsable de la sécurité des systèmes d'information, RSSI, de l'Université d'Orléans. Mais ça, c'était avant. Embauché en CDD le 11 mars 2019, l'informaticien a été remercié de son poste le 21 avril dernier pour des motifs qu'il conteste. L'homme évoque une situation professionnelle qui s'était largement dégradée au fil des mois, en très grande partie liée à son refus d'obéir à des ordres contraires à la loi selon lui. Cette affaire n'est pas simple, elle concerne la sécurité informatique et la protection des données personnelles. L'Université d'Orléans avait d'ailleurs fait son mea culpa à ce sujet. En effet, elle avait demandé des documents confidentiels à des étudiants précaires durant la période de confinement pour que ces derniers puissent bénéficier d'aide. Afin de mieux comprendre cette affaire complexe, le Bondiblog vous propose d'écouter l'interview de Pierre-Antoine Hérard que nous avons joint ce mercredi 27 mai de l'année 2020 par téléphone.
Oui, allô ?
Oui, monsieur Hérard ?
Oui.
Je vais revenir à l'article de la République du Centre où il est mentionné que vous avez été employé en CDD le 11 mars 2019 en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi consiste votre poste ? En quoi consistait votre poste ?
Alors, le poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est un poste qu'on retrouve un peu partout dans les grandes entreprises, dans les administrations, dans beaucoup d'administrations françaises, qui consistent en fait à faire ce qu'on appelle de la gouvernance sur la sécurité des systèmes d'information. On est là pour conduire des politiques et des plans de sécurité informatique et de mise en conformité. Ça, officiellement, c'est ce qu'on trouve dans les textes. Donc, quand on est nommé à ce genre de poste, on doit s'assurer que le système d'information sur lequel on est va donc être conforme à certaines normes, à certaines réglementations. Et si ça ne l'est pas, on va faire en sorte de faire ce qu'on appelle une politique. Une mise en place d'une politique de système, une politique de sécurité des systèmes d'information pour arriver à une certaine maturité pour éviter des attaques informatiques, des vols de données, des fuites de données, ce genre de choses qu'on voit régulièrement dans la presse.
D'accord. Et tout cela est régi par une charte de déontologie informatique en quelque sorte.
Alors, il n'y a pas de charte de déontologie informatique. Il y a plutôt ce qu'on appelle le code pénal sur certaines particularités de notre travail, puisque la sécurité informatique c'est un métier très transverse et qui recoupe plusieurs droits, le droit du travail, le droit social, le droit informatique. C'est quand même un mélange de beaucoup de choses et sur lesquelles il faut savoir et réussir à jongler. C'est pas évident. On doit avoir un peu un bagage juridique ou avoir des appétences dans le monde du droit ou juridique pour pouvoir faire notre métier. Il y a rien qui régit en fait vraiment une profession dans l'informatique. On a effectivement une éthique et une déontologie à avoir, puisque c'est pas parce qu'on est responsable de la sécurité ou même on travaille dans la sécurité qu'on a le droit et le pouvoir de tout faire, parce que justement derrière il y a le code civil, il y a le code pénal qui peut nous rattraper si on fait des choses illicites.
D'accord. Est-ce que, puisque vous nous avez dit qu'il fallait avoir une certaine expérience dans l'univers du droit, est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre CV concernant ces compétences que vous avez pu acquérir au cours de votre carrière?
Oula, alors pour faire
alors, non court, exhaustif, hein, oui.
il y a très longtemps, j'ai fait 2 ans de droit à la fac d'Orléans. J'ai découvert le droit constitutionnel et le droit administratif là-bas en 2005-2007. J'ai pris du plaisir. Je suis parti de la fac parce que le système ne me plaisait pas, le système universitaire, hein, pas d'Orléans, mais je parle du système en général, c'était pas fait pour moi. Et je suis rentré dans la gendarmerie en tant que sous-officier. Là, j'ai vu une autre branche du code pénal, du code de procédure pénale, et ça me plaisait toujours autant. Et après, quand j'ai repris mes études en informatique, on continue en fait à nous faire du droit dans nos métiers, dans tout ce qui est ingénierie, réseau, système et sécurité, puisqu'on se doit de connaître les lois, on voit des grands arrêts, donc on continue à faire du droit pendant toutes nos années d'études. Donc le droit ne nous lâche pas, on l'a toujours dans un coin de la tête, même si effectivement dans certains métiers, quand on fait du développement informatique, on s'y intéresse très peu. Quoique depuis 2 ans, c'est un peu faux, puisqu'avec le règlement général sur la protection des données, plus connu sous le nom de RGPD, les développeurs sont supposés s'y intéresser, puisqu'il faut pas qu'ils fassent tout et n'importe quoi avec les données personnelles. Donc voilà, après, dans mes différents métiers, on s'intéresse toujours au droit de près ou de loin, même si ça nous concerne pas. Et j'ai un peu plus pris en compétence sur le droit depuis mon passage au Conseil d'État en tant qu'ingénieur réseau et sécurité de 2007 jusqu'à mon arrivée à l'Université d'Orléans, donc en mars 2019. Et là, le monde de la juridiction administrative, le Conseil d'État, c'est les tribunaux, les conseils, les cours d'appel administratives. Et puis, c'était beaucoup de travail aussi en interministériel. Donc avec le ministère de l'Intérieur par exemple, des Finances, et eux ils sont un peu plus au fait aussi sur certains normes et sur certains textes où il faut faire un peu plus attention. Donc ça m'a permis de monter aussi en compétence. Et puis après tout ce qui est normes, tout ce qui est circulaire, etc., j'en connaissais déjà une bonne partie parce que, comme je disais, on est à un certain moment, sur certains types de métiers, on est obligé de connaître un peu les circulaires et les lois. Donc après, c'est un travail aussi personnel que l'on doit faire. Et puis, c'est un travail au quotidien. On doit faire une veille juridique permanente. Et ça, je pense que c'est pour beaucoup de métiers, cette vie juridique. Donc, c'est pas lié aussi qu'à l'informatique. Et depuis quelques années, il faut dire que le monde juridique en matière informatique bouge beaucoup et évolue très régulièrement.
Oui, on l'a vu récemment aussi dans les actualités, hein, concernant des projets de loi sur les réseaux sociaux, et puis vous évoquez la RGPD justement plus récemment. Je voulais savoir à quelle date votre contrat arrivait-il à échéance ?
Alors, avant, enfin, en comptant le licenciement, sans compter le licenciement, en fait.
Alors, sans compter le licenciement, puisque vous avez été licencié, vous étiez en CDD, donc c'était jusqu'à quand ?
J'étais en CDD 3 ans, donc c'était jusqu'en 2022, si je dis pas de bêtises.
D'accord. Donc, ça faisait un peu plus d'un an, à peine plus d'un an que vous travaillez.
J'ai fait 1 an et quelques mois, oui.
D'accord. Sous quelle responsabilité travaillez-vous ?
C'est là que le bas blesse. Normalement, on a des circulaires interministérielles que nous on appelle la circulaire 920, qu'on peut trouver facilement sur Internet, qui explique en fait le fonctionnement organisationnel de la sécurité des systèmes d'information.
Alors, excusez-moi. Oui. De quel ministère vous nous parlez ?
Alors là, c'est interministériel. C'est des circulaires qui proviennent directement du Premier ministre. Donc, même si l'Université d'Orléans est entre guillemets indépendante depuis la LRU sous Sarkozy en 2007, on dépend de du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, puisque les deux ministères sont intimement liés. Ce qui fait que la hiérarchie, en fait, et l'organisation de la sécurité des systèmes d'information, si je prends de tout en haut jusqu'à l'université, ça part du Premier ministre. En dessous, ça part sur ce qu'on appelle sur les hauts fonctionnaires de défense et sécurité, qu'on raccourcit en HLDS. En dessous de ça, dans ces services-là, de hauts fonctionnaires défense et sécurité qui s'occupent pas que de sécurité informatique, mais de sécurité en sens large. Mmh. Je parle de sécurité aussi physique, on va dire. Les actions pirates, ces choses-là, c'est aussi qui traite ça dans les différents ministères. Et donc, chaque ministère a son service de ce qu'on appelle donc de HFDS. Au sein de ces services-là, juste en dessous, on a ce qu'on appelle les fonctionnaires sécurité et systèmes d'information, les FSSI, qui, eux, sont mon point de contact entre l'université et le ministère. Donc, quand j'ai un incident, on va dire, informatique, je dois rendre compte automatiquement auprès du ministère, auprès de ces personnes-là, ce qu'on appelle donc les FSSI.
D'accord.
Donc ça, c'est une chaîne fonctionnelle. Et à l'université, les chefs d'établissement sont considérés comme l'autorité qualifiée à la sécurité des systèmes d'information. Et juste en dessous, pour mettre en place les politiques de sécurité des systèmes d'information, on a donc les chefs d'établissement, les AQSSI, comme on les appelle, nomment donc des RSSI, c'est-à-dire des gens comme moi. Donc, on se doit de rendre compte auprès du président, puis du ministère en fonction des actualités. Ce qui fait que, en d'autres termes, d'un point de vue fonctionnel, en fait, mon supérieur est supposé être le président. Il doit dépendre de lui et de personne d'autre. Et d'un autre bout, quand même, du ministère, puisque ça reste quand même notre ministère de rattachement. Et c'est eux qui poussent aussi des politiques et qui recueillent des choses. Donc, depuis que je suis arrivé, le rattachement n'a jamais été très clair. Le vice-président numérique et le président de l'université voulaient à tout prix que le rattachement se fasse au niveau du directeur des services informatiques. Ce qui, moi, ne me plaisait pas, puisque un DSI ne peut pas être jugé parti. Parce que, dans ces cas-là, si on est sous sa responsabilité, il n'y a plus d'indépendance, en fait, sur la sécurité, puisque ça va être le DSI qui va dire, bah voilà, tu vas aller regarder cette chose-là pour voir s'il y a quelque chose qui me plaît ou pas. Et c'est le DSI qui va, en fait, qui va faire juger parti sur son système d'information. Alors que le but du RSSI, c'est bien d'aller pointer du doigt les choses qui ne vont pas et comme ils entendent le faire, en fait, pas là où on va lui dire d'aller regarder. Donc voilà. Donc ça a été un peu un sujet de juillet jusqu'à mon licenciement en février où l'université d'Orléans n'a rien voulu savoir et n'a pas voulu faire respecter les circulaires interministériels sous prétexte que de toute façon on est indépendant, donc on fait ce qu'on veut. Si on a envie de vous rattacher au DSI, on vous rattache au DSI. Donc déjà, il y a au niveau de ma mission, alors que j'avais une lettre de mission signée du président et qui ne précisait en aucun cas que j'étais rattaché au DSI, il y avait quand même je trouve pas mes mots. Enfin, pour moi, il y a un pseudo conflit d'intérêts en fait sur le fait d'être attaché au DSI.
Oui, parce que ce que vous nous expliquez, c'est que cette double subordination garantit en fait l'indépendance de votre poste.
Tout à fait. Et contrairement à ce que a pu me reprocher le directeur général des services et le DRH, eux, ils voyaient ça en mode mais Monsieur Erard, vous considérez comme un électron libre. En fait, je leur ai dit, mais non, je me considère pas comme un électron libre. J'ai une hiérarchie administrative qui est auprès du DGS, qui est normal, je suis un personnel de l'université, mais de l'autre côté, je dois être indépendant pour faire mes propres audits, pour faire mes rapports, etc., auprès du président et auprès du ministère. J'ai pas de compte à rendre au DSI. Si quelque chose ne me plaît pas, ou ne correspond pas à ce qu'on devrait avoir comme norme en termes de sécurité, j'ai le droit de me plaindre sans risquer de me faire taper des doigts dessus par qui que ce soit, en fait. Puisque mon rôle, et on le retrouve dans l'organigramme, quand on cherche un peu sur Internet sur l'organigramme de l'université, on voit très bien que le rôle du RSSI est rattaché directement au président comme d'autres rôles. On a un rôle de conseiller. De dire, bah voilà ce qui se passe. Il se passe ça, on a un rôle d'alerte. C'est un peu comme le médecin de prévention ou ce genre de choses au niveau de l'université. C'est, voilà ce qui se passe. Après, qu'on soit écouté ou pas, c'est plus notre problème, en fait, en tant qu'RSSI, puisqu'on a fait notre alerte. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'être mis directement sous la direction du DSI.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les ordres auxquels vous avez refusé d'obéir ?
Alors, le premier, ça a été l'année dernière, suite à la perquisition du COST avec les affaires de l'ancien président et de l'université, Monsieur Touré. Mmh. Il y a une perquisition au niveau du COST et le président, Monsieur Bruand, avait fait une communication auprès de tous les personnels pour alerter, en fait, suite à la perquisition. Enfin, pas pour alerter, mais pour nous expliquer un peu. Et suite à ça, il y a un enseignant-chercheur donc qui a écrit en privé pour répondre en fait à cette communication publique. L'enseignant-chercheur a répondu de manière privée auprès du président. Et le président nous a démarché, le RSSI adjoint et moi-même, pour nous demander à qui cette personne avait pu écrire au-delà de lui, s'il avait mis des personnes en copie cachée dans le mail. Donc c'était une des premières fois que je faisais face à ce genre de questions. On s'est posé des questions pendant pratiquement toute une journée avec mon ancien collègue. Et parce que c'est pas évident, parce que on est RSSI, on a ce genre de questions qui vient du président, donc c'est la question si est-ce qu'on répond, oui, non, mais il y a le droit de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mmh. Est-ce que je contacte le service juridique, mais est-ce que le service juridique de l'université, il n'est pas intimement lié au président? Enfin voilà, il y avait tous ces genres de questions qui se posaient en disant à qui je peux en parler pour savoir ce que je peux faire et à qui je peux avoir confiance. Mais ça a été très compliqué parce que je venais juste d'arriver. Mmh. Et c'est jamais évident pour une personne, pour qui que ce soit, de pouvoir dire non. Après, d'un côté, moi je me dis, ben voilà, si je suis rattaché au président, etc., cette force d'indépendance, c'est plus facile de dire non. On m'a reproché en septembre, ou je sais plus quand, que voilà, il y avait un devoir d'obéissance. Et moi, j'ai fait passer, j'ai dit, ben non, il y a un devoir d'obéissance, ok, je suis d'accord, mais quand le code pénal est supérieur au devoir d'obéissance, moi, j'engage pas ma responsabilité pénale ni civile sur des questions comme ça. Donc, pour avoir bien réfléchi, j'ai répondu au président que c'était pas possible que la demande était illégale, parce qu'on n'avait pas à regarder. C'était un courrier privé, donc ça passe dans ce qu'on appelle le secret des correspondances. Là, c'est bien clair dans le code pénal. Et si on veut pousser un peu le bouchon, on pourrait même dire qu'on est même dans l'atteinte aussi à la vie privée, puisque on essaye un peu de savoir une personne à qui a pu écrire d'autres. Puis mes questions, c'était aussi, voilà, on est à un an des élections, en avril 2019, c'est pourquoi le président demande ça? Est-ce qu'il veut savoir à qui il a écrit pour savoir qui sera peut-être contre lui aux élections? Enfin, j'avais toutes ces questions-là. Je prends pas part politiquement, moi, personnellement. Moi, les histoires politiques de ce qui se passe à l'université avant, pendant ou après moi, je m'en fiche un peu. C'est pas mes problèmes. Mais d'avoir des questions comme ça, on se pose quand même la question, alors non, plein en lien avec l'actualité. Et on se dit, dans un an, c'est les élections. Est-ce que ça va pas profiter au président, si je réponds, de savoir qui l'a mis en copie? Donc, je trouvais ça aussi grave. Donc voilà. Donc, j'ai répondu, j'ai dit non. Fin de l'histoire. Il n'y a pas eu de suite à ça. Et puis, en juin, il y a eu une deuxième demande, en fait, qui est tombée du vice-président numérique, sans me la poser directement, parce que, comme j'avais déjà dit non le deuxième fois, et puis que ça commençait un peu à chauffer sur mes relations entre le vice-président numérique et moi-même, il avait fait une demande directement auprès de l'ancien RSSI adjoint, sur une demande suite à des mails envoyés de manière aussi très permissive de la part de l'ancien président, Monsieur Touré, à l'ensemble du personnel. Et c'est pareil, il posait la question de comment il a fait pour envoyer les mails, il faut aller regarder comment il a fait, etc. Et là, c'est pareil, malheureusement, il n'y a rien qui encadre ce genre de pratique au niveau de l'université. Il n'y a aucun mécanisme de sécurité sur les envois massifs de mails. Aujourd'hui, n'importe qui à l'université peut envoyer un mail à tout le monde s'il a envie, sans passer par ce qu'on appelle des listes de distribution, etc. Donc à partir du moment où ça c'est permis, de savoir comment une personne, c'est toujours pareil, de savoir comment une personne peut envoyer une flopée de mails à toute l'université, et s'il n'y a rien qui encadre ça, que ce soit dans une charte informatique ou dans une autre charte, c'est compliqué de faire une sanction derrière disciplinaire, en fait, suite à des envois de mails. Donc s'il n'y a rien qui encadre en amont, on ne peut pas sanctionner derrière. Et on peut encore moins Et pour sanctionner, donc il faudrait justement que ça soit écrit quelque part et qu'on puisse chercher pourquoi la personne avait pu envoyer. Mais comme rien n'est cadré, pour le coup, on n'a pas à chercher, on n'a pas à regarder comment ça a pu être envoyé. Parce que c'est pareil, si on commence à chercher, etc., qui nous dit qu'on va pas aller plus loin, de savoir ce que la personne a pu faire, envoyer à qui, peut-être que M. Touré n'a pas envoyé à toute l'université, mais juste à des gens précisément. Donc voilà, c'est pareil. J'avais renvoyé en tous, en disant non, et je sais que la demande a quand même été traitée. Ils ont regardé au niveau de la DSI avec l'arrivée du nouveau directeur informatique en septembre, et ça a été traité par les équipes, par une personne au niveau de l'informatique, suite à la demande du DSI, et je m'étais un peu pris le bec avec le DSI actuel en disant on n'a pas à le faire, voilà. Et lui me disait si, puisque c'est ton chef, il te demande. Bon, voilà. J'ai beau être un ancien militaire, et même si je le suis encore un peu par le biais de mon engagement dans la réserve opérationnelle, je sais ce que c'est que le devoir d'obéissance, et je sais quand est-ce que je dois obéir et quand je dois pas le faire. Donc, quand on me pose cette chose-là en disant, vous avez un devoir d'obéissance, je me prends un peu mal quand on me dit que j'aime pas, quand le DGS me reproche que je ne souhaite pas, répondre à ce genre d'ordre, je me prends un peu mal.
Alors, je vais faire une analogie, excusez-moi, je fais ce que je peux. C'est un peu comme si, en tant que militaire, on vous demandait de contrevenir à la Convention de Genève dans le cadre d'une opération militaire. C'est un peu ça?
Oui, c'est exactement ça. Et de toute façon, même les militaires, ils ont le droit de dire non à un supérieur à partir du moment où l'ordre il est considéré comme illégal. Donc voilà. Après comme j'ai dit, il faut que les personnes soient au courant que à partir du moment où elles répondent à un ordre, elles engagent leur responsabilité pénale. Elles pourront pas dire c'est mon chef qui l'a demandé. Le code pénal est très clair là-dessus. C'est toute la chaîne en fait qui sera rattrapée par la justice et pas la personne qui a appuyé sur le bouton. Mais la personne qui aura appuyé sur le bouton, il y aura beau y avoir 4 personnes avant elle qui auront donné l'ordre, elle sera tout autant coupable, parce qu'elle l'a fait, elle n'aura pas su dire non. Et c'est assez compliqué, hein. Je me mets à la place de technicien ou d'ingénieur informatique, quand on leur demande quelque chose, soit ils n'ont pas les connaissances, ou soit ils ont, entre guillemets, une pseudo-peur de dire non. Et c'est toujours compliqué. Donc voilà, j'ai mon éthique, j'arrive à me regarder dans une glace le matin, et faire ce genre de choses pour maîtriser une communication ou pour savoir ce qui se passe au sein d'un établissement, ça correspond pas à mes valeurs en fait. Au-delà de la loi, ça, pour moi, c'est pas possible que je puisse répondre à ce genre de demande.
Oui, et la loi est de votre côté en l'occurrence.
Tout à fait. Enfin après. La justice tranchera, puisque l'avocat, on porte l'affaire de toute façon au tribunal administratif sur la partie licenciement et on inclut le fait des demandes illégales et en parallèle, moi de toute façon, j'ai, comme l'explique très bien le code de procédure pénale sur l'article 40 sur les fonctionnaires où on doit signaler auprès du procureur un crime ou un délit ou l'intention d'en commettre un, moi j'ai signalé donc cette histoire de harcèlement moral et de demande illégale du président auprès du procureur de la République. Le signalement, je sais qu'il a été reçu par madame la procureure adjointe, donc après voilà, la justice tranchera et c'est le procureur, le ou la procureure de la République qui décidera des suites à faire. Moi, j'ai fait mon travail, j'estime l'avoir fait en toute éthique et en toute transparence. Après, si la justice va dans un autre sens, tant pis. Mais voilà, on pourra pas me reprocher d'avoir appuyé sur des boutons ou d'avoir suivi les ordres du président.
Donc, vous avez saisi le procureur?
Tout à fait.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sur quel point précis, sur quel article de loi, justement, vous l'avez alerté?
Comme je disais juste avant, selon le code de procédure pénale, l'article 40, tout fonctionnaire, quel qu'il soit, assimilé ou non, donc les contractuels comme moi en font partie, à partir du moment où on est témoin d'un crime ou d'un délit ou l'intention d'en commettre un, c'est assimilé, c'est à la même valeur, on se doit de faire un signalement auprès du procureur de la République. Donc j'ai écrit à M. Besson, à Madame, j'arrive plus à prononcer son nom, mais Madame Dizedo, je crois, quelque chose comme ça, ce qui s'était passé sur les demandes illégales et ce qui avait conduit en fait à un harcèlement moral de la part de la direction, de la gouvernance de l'université, et donc qui avait conduit in fine à mon licenciement. Donc voilà. Donc après, c'est eux qui se prononceront, donc comme je disais, des suites à tenir ou pas, s'il y en a.
Outre votre avocat, avez-vous bénéficié de soutien ?
Au niveau de l'université, aucun. Au-delà des responsables syndicaux, bien évidemment, vers lesquels je m'étais tourné, qui m'ont accompagné, je les remercie parce que pour eux, c'est pas évident avec ce qui se passe dans l'université depuis quelques années. Mais ils peuvent pas faire plus que de toute façon que moi je fais aujourd'hui d'aller vers mon avocat. Et de toute façon, voilà, on sait très bien comment ça se passe dans des cas comme ça. C'est très rare que les collègues de là où on peut travailler, en l'occurrence à la DSI, se mettent tous derrière une personne et le soutiennent. Ils ont beau être fonctionnaires ou contractuels, j'ai vu à peu près comment ça se passait. Oui, il y a eu une lettre ouverte l'année dernière sur les conditions de travail qui n'étaient pas exceptionnelles au niveau de la DSI. Là, tout le monde avait signé, etc. Ça avait fait un peu de remous auprès de la présidence. Mais aujourd'hui, est-ce que l'ensemble des collègues de la DSI viendraient me soutenir sur ce qui s'est passé? Non, absolument pas. En off, quand on va leur parler individuellement avec certaines personnes, ils vont vous dire que ce qui se passe est dégueulasse, patati patata, mais ils font rien, ils ne le diront jamais publiquement parce que ils savent très bien. Enfin voilà, on sait très bien comment ça se passe. C'est malheureusement, puis c'est pas les cas d'administration, c'est la même chose dans le privé. Les gens sur des cas comme ça, que ce soit du harcèlement moral ou sur des demandes comme ça, soit ils sont pas forcément au courant et ils ne veulent pas l'être, ce qui est compréhensible, soit des fois ils le sont, ils sont au courant, mais ils prendront jamais parti publiquement. Donc voilà, sauf si toutes les agents de la DSI étaient en souffrance et en harcèlement moral comme j'ai pu l'être, là oui, ils pourraient avoir une action collective, mais quand il y a une seule personne sur 30 qui est concerné, on se retrouve vite esselé en fait. Donc voilà. Donc de toute façon, je n'attendais pas forcément un soutien de la part de mes collègues, que ce soit public ou pas. Dans ces cas-là, on sait très bien qu'on doit aller batailler tout seul de toute façon. Donc voilà. Ça, mentalement, je m'y étais préparé. Donc voilà.
Que souhaitez-vous aujourd'hui?
Comment ?
Que souhaitez-vous aujourd'hui ?
Alors, ce que je souhaite aujourd'hui, alors dans ma procédure, c'est qu'on reconnaisse qu'effectivement le licenciement est complètement abusif, hein, et que il y a bien eu du harcèlement moral. Hein, je n'invente pas. Ça a été mon mal-être et mes dégradations des conditions de travail ont été quand même mis en alerte par la médecine de travail de l'université. J'étais en arrêt pas mal de temps sur différentes périodes. J'ai fait vivre le CHSCT aussi suite à cette histoire, hein, sur ce qui s'est passé, mon rattachement, donc toute l'histoire en général. Moi aujourd'hui, je souhaite que l'université soit reconnue coupable de licenciement abusif, et dans un deuxième temps que les personnes qui ont effectivement fait du harcèlement moral soient tout autant reconnues coupables, parce que à partir du moment où on fait du management comme ils ont pu le faire, la façon dont ça a été fait, il faut arrêter de donner des gens manager à ces gens-là. Enfin, je sais bien que c'est de la fonction publique. Ça sera déjà une belle victoire si le licenciement abusif est bien reconnu. Et après, sur le harcèlement moral, je sais que c'est toujours un peu plus compliqué à avoir gain de cause sur ces choses-là, parce que des fois, pour les magistrats, il peut toujours manquer des preuves ou ça peut être c'est pas assez long, c'est pas assez caractérisé.
Oui.
Mais bon, j'ai quand même des traces écrites, j'ai quand même pas mal de choses, surtout depuis la période du confinement, où le DSI a pris des mesures très particulières à mon encontre, où j'avais pas le droit d'être en contact avec mes collègues, je devais pas être mis dans les mêmes groupes de discussion qu'avec mes collègues, j'avais si je communiquais avec mes collègues, le DSI devait en être automatiquement informé, etc. Donc là aussi, il y avait une demande explicite du DSI sur le fait que si j'avais un mail, si j'échangeais un mail avec un collègue, le DSI devait être mis en copie. Donc là, c'est pareil, je lui dis, c'est illégal, c'est une violation du secret des correspondances et atteinte à la vie privée. Mmh. J'ai saisi le DGS et le DRH sur lequel, sur ces éléments-là, écrit à l'appui, ils n'ont jamais répondu, ils n'ont jamais donné de nouvelles suite à ça, alors que c'est extrêmement grave, je trouve, de la part d'un manager de donner de tels ordres et que le DGS et le DRH ne disent rien derrière, en sachant qu'il me restait un mois à faire entre le confinement qui commençait le 16 mars et la date de mon licenciement. Mmh. Donc ils auraient pu être en disant il reste un mois, c'est bon, on fait pas de vagues, on fait rien, mmh. et on laisse couler, quoi. Et non, ils ont continué pendant tout le confinement à m'isoler d'autant plus que ce qu'ils le faisaient déjà avant.
D'accord. Alors, j'ouvre une parenthèse pour nos auditeurs auditrices. Je les invite à aller consulter le site de la CNIL, qui est très bien renseigné, pour avoir pas mal d'informations sur les libertés informatiques, ce qu'on peut faire et ne pas faire. Je ferme la parenthèse. Il y a eu un souci pendant le confinement. Beaucoup d'étudiants en situation précaire avaient besoin de manger et sollicitaient une aide de l'université pour pouvoir subvenir à ses besoins vitaux. Et l'université a fait son mea culpa depuis, mais à un moment il a été question, il a été demandé aux étudiants qu'ils fournissent un extrait de leur compte bancaire pour justifier de leur précarité, ce sur quoi l'université est revenue. Est-ce que vous pensez que l'université d'Orléans a un problème avec la confidentialité des données ?
Ils ont un problème tout court avec le droit, j'ai envie de dire, pas que le droit informatique. pour le vivre, on peut parler des congés imposés qu'ils ont fait sans aucun cadre légal. Tous les agents se sont retrouvés avec des congés imposés avant même que le décret gouvernemental soit publié le 15 avril. Je me suis aussi battu pour ça. Le DRH me donne l'impression de n'avoir aucune connaissance et compétence juridique en la matière, et ce dans beaucoup de pans du droit, ce qui est plutôt problématique pour une personne de ce niveau. Mais j'engage que ma personne en disant ça, et ça ne regarde que moi. Mais je l'ai repris sur un certain nombre de procédures me concernant parce que ils étaient pas au fait. Hein. D'ailleurs, ça a été une des remarques positives lors de mon licenciement, où le DGS m'a clairement dit en rigolant que j'étais très procédurier. Donc même en sachant ça, ils arrivent à faire beaucoup d'erreurs dans les procédures qu'ils ont pu avoir à mon encontre. Sur les données, le président a beau avoir fait son mea culpa, c'est à quel moment les services juridiques n'interviennent pas dans ces genres de questions. Et je suppose qu'ils n'ont pas été sollicités. S'ils l'ont été, ils ont dû dire que c'était pas très très légal de demander ce genre de choses, et leur avis n'a pas dû être suivi. Je sais, pour l'avoir lu et entendu, que les services juridiques, quand ils sont consultés, leur avis n'est que consultatif. Ils ne les écoutent jamais, c'est rarement les avis en fait du service juridique, ce qui est assez problématique. On a eu aussi une fuite de données en août 2019, qu'on a traité avec le délit lié aux protections des données de l'université, où on a reçu un mail un matin du DRH en disant il y a des problèmes sur les bulletins de paye, il se peut que des personnels aient un bulletin de paye qui ne leur appartiennent pas. Donc je me suis fendu d'un mail assez rapidement auprès du DRH en disant un, il faut saisir la CNIL, deux, il faut me prévenir en priorité avec le délit de protection des données, et trois, je me mets à votre disposition pour faire des investigations pour comprendre comment ça a pu arriver. Mmh. Je n'ai jamais eu de réponse. Je sais qu'ils ont répondu au délégué aux protections des données en disant vous n'avez pas à saisir la CNIL, vous inquiétez pas, c'est pas si grave. Le droit en général c'est compliqué. Quand on est nommé à certaines fonctions et qu'on essaye un peu de leur expliquer ce qui va pas ou ce qui va, on nous dit qu'on fait pas ou qu'on n'a pas à faire notre travail. C'est compliqué. Et puis pour finir avec les données. L'université via le DSI, ils ont décidé pendant le confinement d'installer des outils de solutions de vidéoconférence outil malheureusement de chez Microsoft, où on a eu des recommandations assez claires émanant du ministère en disant que ce genre de solution n'était pas installé vis-à-vis justement du RGPD, qui n'était pas très respectueuse donc de la sécurité et du respect des données personnelles et de la vie privée. Sauf que le DSI, comme d'habitude, il a installé ces choses, ils ont déployé ça pour les étudiants et pour les personnels. Et dans les mails qu'il a pu faire, ce qui m'a fait doucement sourire, c'est ces outils sont sécurisés et respectent la vie privée. Donc j'ai un peu de mal quand ces outils-là sont dans les ministères, sont bannis en fait. On n'ose même pas prononcer leurs mots, tellement on a peur de se faire taper dessus par les services de sécurité du ministère. Donc il y a un gros delta pareil entre les consignes qui arrivent du ministère et ce qu'on fait en interne. Alors j'entends et je comprends les choix de continuité pédagogique où il faut aller vite, etc. Mais est-ce que c'est une bonne solution que d'aller vite, de mettre en place des outils qui de manière comme ça massive, est-ce que c'est la meilleure des choses sans se poser certaines questions liées à la sécurité, liées à la protection des données? Moi je suis pas sûr. Je préfère dire à un étudiant, on a été pris de court. Ça, c'est ce qui se passe, hein, leur expliquer clairement la situation, c'est des étudiants, ou même les personnels, hein, ils sont pas bêtes, hein, ce sont des adultes, et de leur dire, on est en train de chercher une solution qui peut répondre à nos contraintes réglementaires, et puis au fait qu'il va falloir faire de la continuité pédagogique, etc. Donc, on travaille dessus. De pas pouvoir donner de date, je sais que c'est toujours problématique, mais je pense que les gens dans des situations comme ça, ils peuvent comprendre parce qu'ils sont pas, on n'a pas besoin de les infantiliser. Après c'est mon avis. J'aurais préféré que les gens ne puissent pas travailler pendant 3 semaines, par exemple, le temps qu'on prenne en compte en fait ces problématiques là de sécurité et de protection des données. En sachant pareil que l'infrastructure liée au télétravail par ce qu'on appelle les VPN, moi j'avais déjà alerté depuis un bon petit paquet de temps que le serveur était obsolète, qui servait à rien en termes de sécurité. Donc c'est pareil, aujourd'hui rien n'a été fait pour remplacer ça, en sachant que le ministère a mis en place une solution justement pour faciliter les connexions à distance sur les différents sites des universités, dans toute la France, donc pour toutes les universités. Ça, c'est des choses que j'ai fait remonter au DSI, j'ai jamais eu de retour là-dessus. Ce qui aurait été beaucoup mieux d'utiliser les services du ministère que les services, entre guillemets, pourris de l'université. Mais une fois de plus, ça m'en regarde que moi. Et comme j'ai dit, moi, je fais mon travail d'alerte. Si après, on n'est pas écouté, etc., faudra pas qu'ils viennent se plaindre dans quelques mois ou je sais pas quand, si quelqu'un se dit, il y a eu un problème, il y a une problématique de sécurité ou de données, ils pourront pas dire qu'ils étaient pas au courant.
D'accord, donc on peut ou vous reprocher c'était quoi le terme employé que vous étiez
procédurier
ou alors d'un autre côté le manque de rigueur de l'université, la balle est dans le camp de la justice, hein, puisque vous avez d'une part saisi le procureur et d'autre part vous avez donc saisi un avocat pour votre défense. L'université qui fera, j'imagine, encore parler d'elle, puisque c'est jeudi 28, que va s'ouvrir le procès de l'ancien président Youssoufi Touré.
Oui, avec M. Bruand.
Comment ?
Partie civile, avec M. Bruand,
oui.
Partie civile, donc on devrait les voir justement au tribunal. Bon, après, ça, ces problèmes-là, c'était bien avant moi, et donc, j'ai pas grand-chose à dire. Ça, c'est pareil, la justice fera ce qu'elle a à faire, et puis on verra ce qui se passe. Mais c'est vrai que, depuis quelques années, il y a souvent régulièrement des articles dans la presse concernant l'université, mais c'est vrai qu'avec mon cas, ça en rajoute un peu plus. Enfin, après, ça démontre aussi... un certain problème dans l'administration, hein, au niveau de l'université sur pas mal de choses, et c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve, hein, DGS, DRH, président, et si à un moment faut se poser les bonnes questions, quoi. On peut pas faire grand chose malheureusement à part agir en justice et alerter à la rigueur la rectrice qui est chancelière de l'université et du ministère. Je me suis posé la question de le faire. Je l'ai pas fait parce que je pensais que c'était un peu coquant. Je pensais que ça allait revenir avec un coup d'épée dans l'eau. Donc je sais pas si la rectrice et si le ministère se saisira justement un peu de ce qui se passe autour de mon affaire, qui est quand même une double affaire sur le harcèlement moral et les demandes illégales. On verra s'il daigne faire quelque chose ou pas, quoi. Mais j'ai un doute.
On verra bien. Alors, je précise hein, pour nos auditeurs auditrices et notamment l'université qui nous écoute peut-être. Hein, il s'agit pas d'acharnement journalistique sur l'université. Donc, notre travail consiste à relater des faits, à recueillir des témoignages. Et il y a des faits et des témoignages qui peuvent être recueillis concernant les actualités de l'université. C'est pas qu'on s'en passerait, c'est que notre travail consiste à relayer de l'information, à informer les auditeurs auditrices. Voilà, sur les actualités locales. Et c'est vrai que, alors c'est pas qu'on en a marre de parler de l'université, hein, mais on est très sollicité. Voilà, on poursuivra évidemment de notre travail d'information, mais pas seulement sur l'université, car il y a d'autres sujets qui seront traités. Je rappelle que le Bondy Blog Centre est un média citoyen, d'expression citoyenne. Merci Monsieur Erard.
Ben, je vous en prie, merci à vous.
Voilà, cette interview est terminée. Hein. Donc, oui, je le rappelle à nos auditeurs auditrices, nous ne nous acharnons pas sur l'Université d'Orléans, bien au contraire. Mais il est vrai que, en ces temps de procès de l'ancien président Youssoufi Touré, nous ne pouvions faire l'impasse sur un dysfonctionnement concernant les services informatiques de l'université, qui concerne à la fois donc une affaire de harcèlement moral, mais aussi de protection des données confidentielles. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous aurez plus d'informations en allant sur le bondyblogcentre.fr pour retrouver l'article très détaillé de Thomas Deray, notre confrère journaliste à la République du Centre d'Orléans. Au revoir à toutes et à tous.
Bondyblog Café. www.bondyblogcentre.fr